Le débat du jour.
Anne Souhaitemont.
Bonsoir. Après un gros plan dans décryptage sur le programme de Donald Trump en matière de politique intérieure, nous nous arrêtons dans le débat de ce soir sur la politique internationale que vont, à partir de fin janvier, mener les États-Unis de Donald Trump. Car si la perspective d'un Donald Trump à la tribune des Nations Unies semblait bien lointaine il y a encore quelques heures, quelques jours, elle est aujourd'hui devenue réalité. Il est donc légitime de s'interroger sur la vision du monde du milliardaire. Écoutez d'ailleurs le message qu'a voulu faire passer Donald Trump dès les premières minutes de son discours de remerciement.
Je veux dire à la communauté mondiale que même si nous allons toujours placer nos intérêts en premier, nous serons juste dans nos rapports avec tout le monde. Avec tous les peuples et tous les pays, nous chercherons des terrains d'entente, pas l'hostilité ni les conflits. Nous chercherons plutôt des partenariats.
Quelle politique étrangère pour Donald Trump à la tête des États-Unis ? C'est le débat de ce soir, bienvenue. Pour en parler, nous retrouvons deux invités que vous avez entendus il y a une dizaine de minutes avec Nathalie Amar dans Décryptage. Philippe Golub, bonsoir.
Bonsoir.
Je rappelle que vous êtes professeur de relations internationales à l'Université américaine de Paris, spécialiste de l'histoire internationale contemporaine, auteur du livre « Une autre histoire de la puissance américaine » paru aux éditions du Seuil. Deuxième invité, James Cohen, rebonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur à l'Institut du monde anglophone à l'Université Paris 3, spécialiste des États-Unis et des Amériques au sens large. James Cohen, peut-être une première question finalement assez simple. Est-ce qu'on sait quelle politique internationale veut mener Donald Trump ?
Je pense qu'on ne le sait pas. Je pense qu'on navigue à vue pour l'instant. C'est encore trop tôt pour le dire. D'autant plus qu'il n'a pas d'équipe constituée de spécialistes autour de lui. Hillary Clinton n'en avait que trop, d'une certaine façon. Elle avait compulsé tous les dossiers. Elle était armée de toute une batterie de think tanks et d'instituts stratégiques, etc. Alors que Trump n'a pas constitué d'équipe. On navigue à vue réellement pour l'instant.
Alors, vous êtes d'accord avec ce qu'a dit François Hollande assez rapidement? Il a parlé d'une période d'incertitude qui s'ouvre en matière internationale. Pour vous,
c'est
une bonne qualification? Vous êtes d'accord? Philippe Golub, est-ce que pour vous, c'est pareil finalement? Vous dites, aujourd'hui, on ne sait pas du tout quelle est la ligne internationale que défend Donald Trump?
Oui, tout à fait, on ne le sait pas parce que Donald Trump ne le sait pas. Donald Trump lui-même n'a pas d'idée arrêtée sur les questions internationales. Il a des intuitions, il a éventuellement des pulsions, je ne sais pas. Bientôt, il aura des idées. Évidemment, ça se construit, ça se fera dans la construction même de sa présidence. Mais je pense que Trump ne voulait pas vraiment être président. Il est rentré dans les primaires par hasard, quelque part, et puis il a gagné... presque par hasard, et puis il est devenu président,
c'est
presque par hasard.
Ouais.
Donc oui, c'est la télé-réalité qui s'est auto-réalisée. Donc non, il ne sait pas, je ne veux pas être facétieux, il ne sait pas lui-même quelles sont les grandes lignes de sa politique, donc nous ne pouvons pas le savoir.
Alors, il y a quand même quelques déclarations qui avaient été faites, qui ont émaillé cette campagne en matière de politique internationale, même si on le sait, hein, c'est pas sur la politique internationale que se fait une élection aux États-Unis comme ailleurs d'ailleurs, hein, rappelons-le. Peut-être, James Cohen, est-ce que vous n'avez pas lu dans ces quelques propositions une volonté de se désengager de Donald Trump sur le terrain international?
Écoutez, il a multiplié les déclarations dans chacun de ses meetings de campagne et dans tous les débats. Il a dit tout le mal qu'il pense. Par exemple, de l'accord de libre-échange de l'Amérique du Nord. Il a laissé entendre qu'il veut déchirer cet accord. Il a laissé entendre que c'est le pire accord de l'histoire et que la famille Clinton était en grande partie responsable, ce qui n'est pas faux d'ailleurs. Mais bon, il n'a jamais vraiment précisé pourquoi il considérait que c'était un mauvais accord. Je pense qu'il n'a pas fait d'études très spécialisées, si je le connais, des chaînes de valeur qui relient le Mexique par exemple aux États-Unis par le biais de tout ce qui est fabrication d'automobiles et de matériel électronique, etc.
Donc pour vous, en gros, il y a des idées, des volontés, des formulations, mode d'emploi.
Je pense que l'argument de la rupture de cet accord et du refus d'autres accords correspond à peut-être à des options qu'il va avoir, mais en même temps, ça correspondait surtout dans sa campagne à un argument instrumental pour satisfaire une partie de son public qui se méfiait beaucoup de ces accords, qui se méfie de l'idée du libre-échange parce qu'ils ne trouvent pas leur compte. ce qu'on appelle libre-échange, en tout cas avec beaucoup de guillemets, et donc il s'est servi de ça, sans vraiment jamais préciser ce qu'il a l'intention de faire.
Philippe Golub, vous êtes d'accord, vous n'y voyez pas une ligne politique, mais juste de l'opportunisme dans cette volonté d'être non-interventionniste ou de critiquer le libre-échange?
Non, il y a de l'opportunisme dans le sens qu'effectivement c'était un effort pour mobiliser une frange importante de l'électorat, n'est-ce pas, qui souffre et qui croit souffrir à cause du libre-échange, qui en partie souffre du libre-échange, mais seulement en partie. Non, il y a, dans le désengagement, il faut cerner les différents problèmes du désengagement. Barack Obama a, de façon relativement intelligente, désengagé les États-Unis partiellement d'Irak et d'Afghanistan et des grands conflits. Il voulait limiter les présences américaines massives dans les zones de guerre et de conflits. Il l'a fait tout en utilisant les drones, par exemple, comme arme systématique dans la lutte dite antiterroriste. Donc, il y a une certaine forme de désengagement stratégique américain sur Obama. On l'a vu aussi sur le dossier syrien et les critiques françaises qui ont suivi, justement, sur le désengagement américain en Syrie. Mais Trump est un nationaliste, c'est un ultranationaliste. Le désengagement veut dire ici l'affirmation de la puissance américaine unilatérale. Je pense que c'est important de souligner cela. Les nationalistes américains, par exemple, de l'entre-deux-guerres, qui ont mis à bas la Société des Nations, Henry Cabot Lodge, étaient des interventionnistes à l'étranger, mais sélectifs, pour affirmer la puissance américaine dans des conditions sélectives.
Donc ce que vous voulez dire, c'est que par exemple, dans la volonté de Donald Trump, puisqu'il l'a dit, d'envoyer des troupes en Syrie, il y a cette volonté d'intervenir seul, mais par contre, dans sa volonté de se désengager peut-être de l'OTAN, d'avoir moins d'engagement financier, on a vu ses déclarations sur le Japon, l'Arabie.
C'est un moyen de pression sur les pays européens aussi. Ils ont dit, les États-Unis se désengagent, vous allez payer plus, les Européens, ils mettent les Européens sous pression. Non, je pense que ça ne veut pas dire que les États-Unis ne travailleront pas avec d'autres. La Russie, par exemple, en Syrie, c'est pas tout à fait impossible à concevoir maintenant qu'il y aura des accords russo-américains pour intervenir en Syrie. Mais l'idée est une forme différente d'affirmation de la puissance nationale que les internationalistes de type Clinton, qui veulent le faire de façon structurée autour d'alliances multilatérales avec une prédominance américaine. Pour Trump, pour les ultranationalistes américains, il s'agit d'affirmer unilatéralement cette puissance quand ils le veulent.
Vous êtes d'accord, James Cohen, sur cette analyse d'une puissance unilatérale ?
Très largement d'accord, oui, tout à fait. Je pense que je vois pas, je n'ai pas souvenir d'avoir entendu des discours de Trump faisant l'éloge de quelque forme de coopération internationale que ce soit. C'est pas quelque chose qui est vraiment dans son vocabulaire. Et je pense que pour parler un peu de la région que je connais mieux, les Amériques, je pense que on va assister à une tentative de retour en force d'une sorte d'impérialisme très unilatéral vis-à-vis de l'Amérique du Sud et de l'Amérique centrale. En tout cas, dans sa volonté. Enfin, il doit imaginer.
Donc le travail, par exemple, qui a été engagé par Barack Obama à Cuba, pour vous, c'est absolument pas une politique que pourrait mener ou continuer Donald Trump ?
Il y a un énorme point d'interrogation là-dessus, parce qu'il a laissé entendre qu'il allait remettre en cause ses accords, qu'il n'allait pas jusqu'au bout des relations diplomatiques, qu'il n'allait surtout pas appeler à lever l'embargo. Mais en même temps, je me dis que puisqu'il passe son temps à dire que je veux faire les meilleurs deals possibles, on est en train de faire des sacrés deals avec Cuba et d'entrer dans un marché dont les États-Unis s'auto-excluaient jusqu'à maintenant. Donc, qu'est-ce qu'il veut ?
Alors justement, ça c'est intéressant, effectivement, cette formule « best deal », il l'a répété souvent. Évidemment, Donald Trump, c'est un milliardaire, c'est un businessman, il se présente comme ça. Est-ce que ça peut se manifester en matière diplomatique ? James Cohen, sacrée question.
Écoutez, je suis. On n'a pas encore vu ce cas de figure. On sait qu'il n'a pas. C'est pas quelqu'un qui a la préparation, qui a lu les dossiers, qui les compulse le soir et la nuit, comme Hillary Clinton, qui avait une certaine forme de compétence en la matière.
Une diplomatie basée sur. Elle a été secrétaire d'État. Elle a été chef de la diplomatie américaine.
Une connaissance. Une diplomatie basée sur la connaissance des affaires et du deal et l'art du deal. Je ne sais pas à quoi ça ressemble. C'est un peu court.
Philippe Golub, peut-être un mot de ceux qui vont entourer Donald Trump. Vous en avez déjà parlé tout à l'heure avec Nathalie Amar. Au plan de la politique intérieure, c'est déjà très flou. En matière internationale, est-ce qu'on sait un peu qui le conseille ? Alors sur la Russie, on a beaucoup parlé, on a lu le mot, le nom de Carter Page, par exemple. Est-ce qu'on sait qui c'est ? Est-ce qu'eux ont une ligne ?
Carter Page est une figure tout à fait secondaire, n'est-ce pas, qui ne fait pas partie de l'establishment de politique étrangère de sécurité, mais qui a des liens apparemment assez forts avec la Russie, économique et politique, surtout économique d'ailleurs. D'autres conseillers de M. Trump avaient aussi des liens, Armored Corps avait des liens très forts avec la Russie.
Manafort, là, qui était dirigé sa campagne un temps.
Absolument, qui dirigeait sa campagne. Mais il n'a pas d'équipe internationale de spécialistes de sécurité internationale. Il y a un général qui, pendant un temps, était directeur des services de renseignement militaire, Defense Intelligence Agency, qui connaît sans doute les dossiers, mais qui est connu pour ses prises de positions assez extrémistes. Donc il n'a pas autour de lui un groupe de vrais professionnels. Et d'ailleurs, la plupart des grandes figures, les figures historiques, disons, de l'establishment de sécurité et de politique étrangère américaine ont dénoncé Donald Trump pendant la campagne. Ceci ne veut pas dire qu'il n'y aura pas maintenant des ralliements qui vont entourer le président avec une certaine forme d'expertise.
Oui, est-ce que certains diplomates, est-ce que certains experts, maintenant qu'il est devenu président,
évidemment,
vont se mettre à son service, James Cohen? Est-ce que ça, il y a déjà des bruissements en ce sens?
Ça va se faire. À l'époque de Ronald Reagan, qui maîtrisait très peu les dossiers, une équipe s'est très vite constituée. Il y a eu des bagarres internes, mais le parti républicain à l'époque était suffisamment stable et uniforme pour que les instituts stratégiques qu'il fallait former équipe autour de lui, il a su puiser là-dedans ses conseillers, alors que pour Trump, c'est beaucoup moins certain. On ne voit pas à qui il va s'adresser.
Ronald Reagan avait un vice-président qui avait quand même été diplomate à l'ONU et qui avait été ambassadeur à l'ONU.
Bush-père,
et qui avait été directeur de la CIA. Donc il y avait déjà beaucoup d'expertise internationale au sein même de la Maison-Blanche.
Donc pour vous, là, on a un vide inédit de Donald Trump en matière de politique étrangère.
On n'a jamais vu un candidat gagner une élection présidentielle depuis 45, du moins depuis 45, avec aucune équipe constituée d'experts en politique internationale.
Alors, je voudrais revenir sur une notion, renégociation. Vous avez parlé tout à l'heure, James Cohen, de ce qui s'est passé à Cuba, de Donald Trump qui aurait laissé entendre qu'il pourrait renégocier.
Ou tout simplement remettre en cause.
On a la même chose sur le nucléaire iranien.
En donnant des gages à l'exil et à ceux qui veulent éviter toute forme de rapprochement avec le régime cubain en place. Mais j'ai des doutes là-dessus, je ne sais pas si ça va se...
Mais alors, est-ce qu'il pourrait, parce que autant sur la renégociation de l'accord de Paris, en ce moment au Maroc, on négocie la COP22 qui est censée concrétiser les engagements, il y a aussi ce nucléaire iranien, les Iraniens ont été parmi les premiers ce matin à réagir, que sur cet accord cubain, est-ce que un président des États-Unis a effectivement la main pour se dédire, négocier les clauses qui ont été négociées pendant de longues années?
Il peut. S'il a l'accord, notamment du Congrès là-dessus, et je pense que le Congrès tel que je le connais aujourd'hui, qui est resté, même si les démocrates ont grappillé quelques sièges dans chaque chambre, mais il reste minoritaire dans les deux chambres, et même s'il y a beaucoup de divisions internes aux républicains, je pense que je ne sens pas chez eux, chez aucun d'eux, un grand enthousiasme pour les questions de l'environnement.
Donc,
tragiquement.
Il serait...
Dramatiquement. Hein. C'est terrible, mais c'est comme ça.
Philippe Golub, sur cette question, est-ce que vous pensez que sur le nucléaire iranien, qui était l'une des grandes priorités, hein, Donald Trump accentuait beaucoup là-dessus pendant sa campagne, il aurait matière à revenir en arrière?
Oui, il en a les moyens du point de vue constitutionnel. C'est un accord, c'est une directive présidentielle d'Obama qui a mis en œuvre cet accord et non pas une convention, non pas une loi. Non pas un accord interétatique en bonne et due forme. Et il faut dire que, je pense qu'il faut souligner que pour les républicains, pour les nationalistes républicains, le droit américain prime sur le droit international. Alors que dans des interprétations classiques du droit, c'est le droit international qui prime sur le droit national. Or, pour les nationalistes souverainistes, pour les souverainistes américains, qui composent l'essentiel du parti républicain et Trump lui-même, c'est le droit américain qui prime. Et donc, si le Congrès, comme le dit Jim Cohen, si le Congrès américain vote en sa faveur sur la question du COP21, COP22, contre l'accord, il pourra dénoncer la participation américaine à l'accord.
Il a été suffisamment insistant sur ce genre de thème pendant toute sa campagne pour qu'on ne doute pas de sa volonté là-dessus. Il s'en fiche de l'environnement, c'est le dernier de ses soucis, parce qu'il y a un côté ultra-libéral dans sa manière d'être.
Hein. Et en même temps, Ségolène Royal disait aujourd'hui, il y a eu des investissements, ils ont intérêt économiquement à le faire, et rappelons
et
encore
sont
que
tenus
c'est un businessman.
3 ou 4 ans, c'est ça aussi ce qu'elle explique, que les États-Unis sont tenus par cet accord pour au moins une durée de 3 ou 4 années, c'est ça.
Donc mais... vous vous dites, derrière, après, bon, ça pourrait tenir 3-4 ans, mais...
Je ne suis pas assez expert pour dire dans quelle mesure ça peut tenir, même cette durée-là, mais il y a danger.
Alors peut-être un mot, puisqu'on passe de Barack Obama à Donald Trump, sur le bilan diplomatique de Barack Obama, il y a eu des choses, enfin le bilan politique étrangère, le rapprochement avec Cuba, on en a parlé, ce retrait amorcé d'Irak et d'Afghanistan, ça concerne je crois plus de 130 000 hommes, c'est quand même conséquent, l'accord sur le nucléaire iranien, il y a aussi eu l'échec du reset avec la Russie, comme on dit. Philippe Golub, vous voyez un bon bilan diplomatique de Barack Obama ?
Dans certains domaines, oui, et dans d'autres, non. Je pense que, par exemple, sur le dossier israélo-palestinien, comme la plupart des présidents qui l'ont précédé, on est dans l'échec total, pas seulement américain d'ailleurs, de l'Europe aussi, des autres grands acteurs internationaux. Donc là, il y a un échec, il n'y a pas eu de volonté suffisante. Sur la question iranienne, les États-Unis ne sont pas allés, de mon point de vue, assez loin. Il fallait aller plus loin, plus vite, pour changer la donne fondamentalement dans la région. Sur la question de la Russie, effectivement, il y a eu, le reset n'a pas marché, mais il se fera de façon curieuse et différente sous Donald Trump. Mais
donc on a beaucoup parlé de nouvelle guerre froide quand même ces dernières années entre la Russie et les États-Unis. Vous pensez que ça va être la fin de cette nouvelle guerre froide?
Oui, je pense en tout cas au début de l'ère Trump, au début de son mandat, oui, on verra ce qui se passera. Les événements dicteront après ce qui se passera. Mais donc le bilan d'Obama est contrasté au plan international. Le bilan qui va venir maintenant sera entièrement fonction des décisions éventuelles prises par l'administration Trump et que l'on ne peut pas connaître aujourd'hui.
Alors juste un mot de la Russie, ce qui est intéressant, c'est que Donald Trump, bon, s'est beaucoup appuyé effectivement sur le soutien russe, et en même temps, par exemple, sur le dossier ukrainien, il n'était pas complètement pro-russe non plus. Alors est-ce que c'est juste un nouveau signe qu'il n'est pas forcément tout le temps très cohérent, ou alors c'est le signe d'une subtilité dans son approche du problème russe ?
Donald Trump n'a pas d'expérience diplomatique, il n'a pas d'expérience internationale, il a des expériences d'affaires. Je ne pense pas qu'il y ait une pensée stratégique chez Trump. Il y a une pensée personnelle sur le pouvoir personnel, sans doute. Mais il n'y a pas de pensée stratégique. On est là dans un vide de pensée stratégique.
Il n'a pas beaucoup tiqué sur l'affaire de la Crimée, c'est ça?
Il a même presque poussé des sanctions de l'Europe en disant que l'Europe devait faire plus pression. James Cohen, à votre avis, quels vont être les défis internationaux du mandat de Donald Trump?
Écoutez, c'est une vaste question.
Dans la zone qui vous concerne,
dans
peut-être, sur les Amériques.
Dans la zone qui m'intéresse, et par mes recherches, je peux vous dire que déjà, l'administration Obama s'est caractérisée par une certaine négligence. Je ne peux pas parler jusque-là, parce qu'ils ont quand même essayé de réparer et de construire des passerelles avec le reste de l'Amérique latine, moyennant le rapprochement avec Cuba. Il y a eu ça. Mais sous Obama, il y a eu également un coup d'État de droite militaire, autoritaire, qu'on a laissé faire dans le pays centro-américain de Honduras, ce qui témoigne d'une énorme négligence de tout ce qui se passe dans cette région, parce que la région se dégrade socialement sous les effets d'une forme de capitalisme particulièrement sauvage, et il y a des formes de violence endémique. Les États-Unis ont négligé cette région gravement. Ça va
rebondir.
Donc
ce sera peut-être l'un des défis, c'est de rassurer cette région.
Trump ne relèvera pas plus qu'Obama ce défi, peut-être plutôt moins.
Philippe Golub, votre avis sur ces défis à relever?
Trump sera très tôt testé par la Chine en mer de Chine du Sud. Les autres grands acteurs internationaux qui ne sont pas dans le système occidental, qui sont hors système occidental, vont tester les limites et les possibilités de la nouvelle administration américaine. Je m'attends à des négociations avec la Chine, mais je m'attends aussi à ce que les Chinois testent les limites de la volonté de la nouvelle présidence américaine de maintenir une forte présence en Asie orientale.
Eh bien, on en fera peut-être une prochaine émission. Merci à vous deux. Merci donc à Philippe Golub, professeur de relations internationales à l'Université américaine de Paris. Merci également à James Cohen, professeur à l'Institut du monde anglophone à l'Université Paris 3. Merci à Florence Ponce, à Valentin Vaner. Demain, c'est Romain Ozoui que vous retrouvez pour un nouveau débat.